Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera.
30 octobre 1940.
Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle.
Philippe Pétain avait à cœur de défendre sa vision de la France éternelle. Et encore aujourd'hui, elle demeure le rêve politique de l'extrême droite française. Cette France éternelle, c'est la matrice originelle du pétainisme.
Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail.
Nous voici au dernier épisode de cette série consacrée à Philippe Pétain. Un destin complexe qui hante toujours la société française. Pétain fut l'homme d'un pacte faustien. Troquer sa gloire personnelle contre le désir de sauver la France de l'abîme en juin 1940 en faisant le choix de collaborer avec les nazis. Alors, après la mort de Pétain, qu'est-il resté de cette funeste aventure? Et où trouve-t-on les vestiges de cette politique sinistre qui voulait instaurer le règne des bons Français au détriment de tous les autres? Le dossier Pétain concerne chaque Française et chaque Français que nous sommes. Qui suis-je face au fantôme de Philippe Pétain?
Ici Vichy, la voix de la France.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le fantôme de Philippe Pétain.
Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles.
Dixième et dernier épisode, qu'est-ce que le pétainisme?
C'est moi seul que l'histoire jugera.
Commençons par raconter la fin. Philippe Pétain, condamné, arrive sur l'île-Dieu à la mi-novembre 1945. Il est enfermé à la forteresse de la Pierre Levée, où il va rester 6 années. Dans sa cellule, il a obtenu le droit d'un abonnement au journal Le Monde pour se tenir informé, et par ailleurs, il s'est mis à apprendre l'anglais. 6 ans durant lesquels le vieux prisonnier a bénéficié du soutien moral de son épouse.
Madame Philippe Pétain, qui porte le lourd fardeau d'un nom à jamais déshonoré, a obtenu l'autorisation de rendre quotidiennement visite à son mari. Et quotidiennement, sa silhouette se profile dans les ruelles sévères de la petite île, au milieu de l'indifférence des uns et de la curiosité des autres. Madame Pétain n'est plus que la femme du prisonnier de l'île Dieu.
Dès le début, il espère sa libération.
Bénédicte Vergès-Chaignon est historienne.
Et il est assez probable que si le général de Gaulle n'avait pas quitté le pouvoir si vite dès janvier 1946, peut-être que cette libération, pour raison médicale ou raison d'âge, aurait pu avoir lieu. Il n'en sera rien. Alors, d'une part, parce que les pouvoirs publics dans cette 4e République aux majorités parlementaires fragiles n'arriveront jamais à prendre la responsabilité d'être ceux qui auront libéré le maréchal Pétain. Et d'autre part, parce que Maître Isorni et le maire vont placer Pétain sur un terrain éminemment politique en réclamant une révision, voulant dire réhabilitation du maréchal et de sa politique, et lever des sanctions de ceux qui l'ont suivi. Tout cela va se combiner pour faire de ce plus vieux prisonnier du monde, dont on espérait que le cas serait réglé tout simplement par le décès, finalement le plus encombrant prisonnier du monde pendant 6 ans.
C'est vrai que la 4e République a un prisonnier de 95 ans, vieux maréchal de France, très très encombrant. On ne sait pas trop quoi en faire de ce Philippe Pétain.
Non, on ne sait pas trop quoi en faire, d'autant que son état de santé se dégrade. Et au bout d'un moment, la maréchale Pétain elle-même devient assez réticente quant à la libération de son mari. Dans un premier temps pour des raisons de sécurité, et puis dans un deuxième temps parce que elle ne saurait pas matériellement quoi en faire.
À la suite de l'aggravation soudaine de l'état de santé du maréchal Pétain, ses défenseurs, Maître Lemaire et Isorni et la petite nièce du prisonnier se sont rendus sur l'île Dieu afin de lui rendre visite au fort de la Pierre Levée. Aux dernières nouvelles, l'état de santé du maréchal Pétain, qui vient d'avoir 95 ans et qui a reçu les derniers sacrements, reste stationnaire.
Où est-ce que Philippe Pétain meurt le 23 juillet 1951 ?
Il meurt sur l'île Dieu, dans une villa qui a été décrétée le mois précédent en extrême urgence annexe de l'hôpital militaire de Nantes, je mets des guillemets bien sûr autour de cette expression. En avril, il avait eu une congestion pulmonaire à laquelle il avait survécu, on ne sait comment. Et il était évident que maintenant, il fallait qu'il soit dans un environnement sans cesse médicalisé, mais il n'était plus transportable. Il perd connaissance le 19 juillet, il est dans le coma et il décède le 23 juillet, 6 ans, jour pour jour, après l'ouverture de son procès.
8 anciens combattants emportés jusqu'au petit cimetière de l'île Dieu, la dépouille mortelle du maréchal Pétain, sa famille et ses amis assistaient à la cérémonie où le képi à feuilles de chêne du disparu porté par un soldat de Verdun évoquait seul le passé. Devant la tombe ouverte, Mgr Cazot, évêque de Luçon, a donné l'absoute avant que le cercueil soit descendu en terre en présence des généraux Végan et Hering. Le petit cimetière marin de Port-Joinville a maintenant un nom dans l'histoire de notre temps.
Alors, il y a eu beaucoup de préparatifs en amont sur les obsèques. Elles auraient dû se passer, s'il était décédé, dans l'enceinte du fort de la Pierre Levée, à l'intérieur du fort, et il aurait été inhumé à l'intérieur du fort. Et là, finalement, au cours de cette agonie de quelques jours, ses proches, ses fidèles ont accouru, pour certains d'entre eux, sur l'île, et vont donc faire un petit concours de foule. Alors, il va y avoir beaucoup de négociations avec les pouvoirs publics pour savoir s'il y aura un drapeau tricolore sur le cercueil, dans quelle tenue militaire ou civile pourra être enterré le maréchal Pétain, et puis qu'est-ce qu'il y aura à mentionner sur sa tombe. Et voilà, on arrive comme ça, par accommodement successif, au modus vivendi des ses obsèques, qui sont surveillées de très près par les renseignements généraux, mais dont nous ne devons pas nous imaginer qu'elles ont donné lieu à des manifestations ou à un très vif intérêt de la part de la population française.
Au final, il est enterré donc sur l'île Dieu, sous une pierre tombale blanche, avec la mention de son titre de maréchal de France sur la tombe, et également en uniforme militaire, je crois.
Oui, alors, mais en petite tenue, voilà, et cette mention maréchal de France, elle est ambiguë puisque normalement, la condamnation à mort entraînait l'indignité nationale qui impliquait la suppression de tous les titres et grades. Et maréchal de France, c'est un titre.
Prenons le temps d'aller faire un tour au cimetière de Port-Joinville. Là-bas, sur l'île Dieu, notre reporter Martine Abbat avait rendez-vous l'été dernier avec un guide du CRU.
Donc Jean-François Henry, je suis originaire de l'île Dieu et je m'intéresse tout particulièrement à l'histoire de l'île qui est l'histoire de ma famille et de mon pays.
Sous la chaleur d'un soleil de juillet, Martine Abbat entame la visite.
Alors, on rentre dans le cimetière. Il y a deux très beaux platanes de part et d'autre de l'entrée.
Ce qui frappe quand on arrive au cimetière, c'est la prédominance des tombes blanches. Et elles sont toutes tournées, la croix vers le continent. Et normalement, le cercueil est inversé, c'est-à-dire que la tête du décédé est face à la croix, pour que, lors de la résurrection, il voit la croix en ressuscitant. C'est une tradition. Et puis de l'autre côté, donc, à l'opposé, le long du mur, Donc la tombe de Pétain.
Donc elle est cachée un petit peu.
Qui est entourée d'ifs, mais au départ elle ne l'est pas, hein, bien sûr. Et puis au pied, vous avez un petit espace sous une vitre qui est de la terre de Douaumont. Et vous avez simplement Philippe Pétain, maréchal de France.
Alors, donc elle est peinte en blanc, elle est assez large.
À la chaux. Et la croix est la croix semblable à celle des soldats de Douaumont. Donc c'est
très
semblable.
Simple.
Une croix de soldat, tout simplement.
Et vous dites que sous ce verre-là, au pied...
c'est de la terre de Douaumont.
Douaumont, c'est là que Philippe Pétain voulait être enterré, au milieu des soldats morts sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale.
On voit pas très bien. Et qui a amené cette terre de Douaumont?
Je pense que c'est des anciens combattants, probablement. Alors, elle a de commun avec les autres tombes ce côté blanc, cette simplicité. Et puis, cette séparation, parce que c'est une tombe provisoire. Donc, elle devait être progressivement supprimée pour être emmenée à Douaumont.
C'est pas l'idée de le mettre à l'écart, de l'ostraciser?
Non, je ne pense pas. Ça a été fait aussi dans l'urgence. Hein. Alors, autour de cette tombe, on peut dire quand même il y a toute l'histoire des gerbes. Puisque le 11 novembre 1968... Donc le président de la République, Charles de Gaulle, fait fleurir pour la première fois la tombe de Pétain comme ancien de la guerre 14-18, donc maréchal de France. Première fois où le chef de l'État honore cette tombe. Comme le fera Giscard d'Estaing en 78, toujours les dates anniversaires de 1918, donc 78. Et la dernière fois que le chef de l'État fleurit cette tombe, eh bien c'est le président François Mitterrand, jusqu'à un moment donné où les... personne hostile à Pétain reproche à Mitterrand d'avoir fleuri cette tombe.
Aux morts.
En 2018, pour le centenaire de l'armistice, Emmanuel Macron avait envisagé de fleurir la tombe du maréchal, mais face à la polémique, la présidence de la République y a renoncé. Philippe Pétain est donc mort de vieillesse en 1951. Mais on a entendu dire récemment que le vieux maréchal aurait été victime de la maladie d'Alzheimer.
Il n'y a absolument aucun doute qu'il a été victime d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer à la fin de sa vie. Depuis 1948 au moins, les signes sont évidents et vraiment vos auditeurs qui ont eu affaire à ça les reconnaîtraient aussi bien que les médecins les ont documentés dans les rapports médicaux. Anxiété, insomnie, perte de mémoire, incapacité à reconnaître ses proches, il ne sait plus qui il est, il est incontinent, et je vous en passe. Le tableau clinique, il est très clair. Le débat est de savoir quand cette maladie neurodégénérative a commencé et quand elle est devenue invalidante. Mais en l'état actuel des données scientifiques dont nous disposons, nous ne pouvons pas savoir si ces atteintes ont commencé dans les années 30, en 1940, en 42, en 44.
Quel que soit le jugement de l'esprit, quel cœur bien né ne serait pas saisi d'émotion devant les contrastes d'un tel destin.
Discours de réception d'André François Poncet à l'Académie française, le successeur de Philippe Pétain sous la coupole.
Quoi ? Dans ce petit cimetière marin, cette tombe toute nue est bien celle du grand chef qui, monté sur un cheval blanc, passait il y a 33 ans sous l'arc de triomphe à la tête des armées françaises victorieuses. Le caprice des dieux n'avait-il donc comblé cet homme de ses faveurs ? Ne l'avait-il élevé au sommet de la popularité et de la gloire que pour le précipiter de plus haut? Ne l'avait-il fait si robuste que pour lui infliger dans sa prison une plus longue épreuve?
À la fin de votre biographie de Philippe Pétain, Bénédicte Vergès-Chaignon, vous écrivez que ce fut un homme volé de sa propre mort. Qu'est-ce que ça signifie ?
Nous savons bien que, et depuis 1916 au moins, Philippe Pétain est plus que la personne de Philippe Pétain. Et donc la mort de Philippe Pétain elle-même est plus que la mort d'une personne. C'est toute l'idée de la révision de son procès et de la réhabilitation qui disparaît à ce moment-là. Mais, du coup, c'est tout un discours, toute une revisite de son action, de sa politique qui se met en place à ce moment-là. Et nous savons bien maintenant que Pétain, tout comme Vichy dans une certaine mesure, sont devenus le synonyme d'autre chose que de Philippe Pétain lui-même. Donc, sa mort lui est volée parce que c'est sa postérité qui commence et sur laquelle il a totalement perdu le contrôle.
Lettre de Philippe Pétain à son épouse Annie, 16 février 1947. Ma crainte est de partir avec l'étiquette de mauvais Français. Nos compatriotes comprendront-ils à la longue qu'ils se sont trompés sur mes intentions ?
Pétain a dit dans son testament d'avril 1938 qu'il désirait que ses cendres reposent au cimetière national de Douaumont.
Jacques Isorni, avocat de Philippe Pétain, 1971.
Puis, dans un document qu'il m'a remis à l'Île-Dieu en 1947 ou 48, ainsi qu'à Jean Lemaire, il nous a exprimé sa volonté de faire réviser la condamnation qui l'a frappé.
Oui, Pétain est coupable.
Aller jusqu'au bout de l'affaire Pétain, c'est obtenir la révision de sa condamnation et la translation de ses cendres à Douaumont.
Pour les défenseurs et les nostalgiques de Philippe Pétain, sa mort constitue le point de départ d'un nouveau combat. Pour sauver la mémoire du maréchal, il fallait tenter de le faire passer du bon côté, dans l'esprit des Français, comme un supplétif de la résistance. Et dès les années 50, à travers des personnages comme Jacques Isorni, on a vu poindre des tentatives de réhabilitation du maréchal Pétain. Mais avec quelle ambition ?
Le début de ça, c'est 1951, c'est-à-dire la mort de Pétain.
L'historien Henri Rousseau.
Un certain nombre de gens qui lui ont été proches ou de gens qui lui étaient opposés vont en faire une figure tragique. Enfin, j'élève un peu le débat, si je puis dire. Pas tellement comme ça que je vois Pétain, mais quand même, on va essayer de construire une figure tragique, c'est-à-dire quelqu'un qui a été pris dans les événements, qui a fait les choix qu'il pouvait, et qui, quelque part, mérite d'être réhabilité parce qu'il représente, malgré tout, une certaine idée de la France, voilà. Et puis, il y a... Alors, ça, c'est la partie concernant la construction d'un mythe autour de la personne de Pétain. Son mythe peut constituer un élément de la reconstitution d'une droite réactionnaire. Mais là, je dis tout de suite, une des clés de ce mythe, c'est la seule fois où ces idées-là, l'idée d'un nationalisme français, a eu le pouvoir. C'est le seul moment, en tous les cas, conséquent, où il a pu s'exprimer, il a pu développer une doctrine, il a pu développer une action... Quelle action, même si c'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Et d'ailleurs, c'est parce que ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles que ça pose un problème. Voilà, jusqu'à maintenant, ça a été un moment unique.
Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Et c'est pour ça que le mythe Pétain, il a un double volet. Il y a... un attachement à la personne, à l'homme, une sorte de figure christique. Il fallait au fond quelqu'un pour symboliser la tragédie, le caractère tragique de la période. Et puis aussi, ce qui s'est passé, c'est-à-dire De Gaulle représente la partie sublime. Enfin, encore une fois, là, je suis plutôt dans l'interprétation, qui est subjective, je le reconnais. Il fallait quelqu'un pour incarner ce qui, au fond, était la situation de beaucoup de Français. Du moins, croient ceux qui veulent mettre en place ce mythe, à savoir se résigner, espérer quand même que la France va survivre. On ne pouvait pas continuer la guerre, on ne pouvait pas se battre, il fallait sauvegarder une part de l'âme française. Voilà. Ceux qui l'ont mis en place, je pense notamment au colonel Rémy, bon, qui est un résistant, qui a été très connu après-guerre parce qu'il a beaucoup écrit. Voilà. C'est en partie lui qui va coucher sur le papier ce fameux mythe du bouclier et de l'épée. Alors, pour résumer, c'est une sorte de mythologie ou de cliché qui voudrait que De Gaulle et Pétain, au fond, étaient dans une forme d'entente, sinon explicite, du moins tacite ou implicite, et que De Gaulle représentait l'épée, celui qui va frapper l'ennemi, tandis que Pétain représentait le bouclier, celui qui va protéger les Français. Alors, c'est un mythe qui ne sert que les pétainistes, hein. Enfin, soyons clairs, parce que les gaullistes, eux, n'ont absolument pas besoin de ce mythe. Donc, ce mythe, ou ce cliché, n'a aucun fondement. Que Pétain ait voulu être le bouclier des Français, oui, pas de tous les Français, hein. Pas de tous les Français. Pas des francs-maçons, pas des résistants, pas des communistes, pas des juifs. Je suis désolé, le statut des juifs comme bouclier, on fait mieux.
Que préférez-vous? Sacrifier les juifs à la France ou sacrifier la France aux juifs?
Dans cette tentative de réhabilitation de l'extrême droite, les nostalgiques de Philippe Pétain ont essayé de distinguer deux Vichy. Un Vichy fréquentable et protecteur, celui du maréchal.
Écoutez un homme qui vous aime comme un père.
Et un Vichy funeste, celui de Pierre Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Avec en toile de fond une vraie stratégie, se débarrasser de la honte de ce régime macabre.
Cette idée a été lancée pour faire en sorte que la droite réactionnaire, enfin, une partie de la droite qui est déconsidérée quand même, hein, à la fin de la guerre, hein, il faut bien le dire, bon, puisse se reconstituer. Ça nous donne d'ailleurs une clé d'interprétation sur le présent. C'est-à-dire l'idée que Pétain, donner une image positive, voire réhabiliter Pétain, est un élément qui permette de réhabiliter la droite réactionnaire, la droite nationaliste, je préfère être précis dans mes propres termes, est restée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on tente de réhabiliter Pétain, de manière grotesque. Mais c'est comme ça, c'est constant. Ce sont les mêmes arguments, avec les mêmes mensonges depuis 50, 60 ans. La seule différence, c'est que ça se passe sur les réseaux sociaux ou la télé. À l'époque, ça se passait dans les journaux. C'est tout.
Tendance Pétain.
Monsieur Philippe Pétain.
Pétain.
Philippe Pétain.
Maréchal Pétain.
Philippe Pétain.
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 Pétain. Pétain.
Je pense que, d'une certaine manière, la postérité de Pétain est au moins aussi intrigante que le personnage lui-même. Le personnage est intrigant parce qu'il a eu trois vies. Voilà, il a une vie qui se termine quasiment avant 14. Il a une vie qui réémerge, une deuxième vie qui réémerge avec la guerre de 14, où voilà, il va devenir l'un des trois chefs victorieux de la Grande Guerre, alors qu'il n'était pas a priori destiné à être à cette place. Et puis, bon, le destin qu'on connaît après sur l'occupation dont on vient de parler. Bon, et il a une quatrième vie. C'est pour ça, alors, je sais pas si c'est le fantôme, oui, peut-être c'est le fantôme, oui, mais cette vie-là est assez intéressante parce que elle le dépasse par rapport à ce qu'il était réellement, voilà, mais peu importe. Hein. Un personnage charismatique, ce n'est pas le charisme propre du personnage qui importe, hein, dans l'analyse du charisme politique. Ce qui importe, c'est la réception, c'est la manière dont l'opinion perçoit le personnage en question, c'est ça qui est important.
Un cortège de 500 nostalgiques a défilé dans les rues pour commémorer le 50e anniversaire de la mort du maréchal. Une manifestation en apparence symbolique qui a une autre ambition, la réhabilitation de Philippe Pétain.
Pour nous, c'est la même chose cette année que l'année dernière, c'est la même chose que l'année prochaine. Et tous les moments où le maréchal sera ici, en attendant son rapatriement à Douaumont au milieu de ses soldats, eh bien nous aurons une réunion à Lisieux le 23 juillet.
50 ans après, Pétain reste dans les mémoires. Son histoire, elle, ne fait toujours pas l'unanimité.
Si le pétainisme a sans cesse revendiqué la France éternelle, il faut aussi se souvenir que Philippe Pétain n'était pas le seul dépositaire de cette idée.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Lorsque Charles de Gaulle s'exprime à l'Hôtel de Ville de Paris le 25 août 1944, il y fait allusion.
Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France. Éternel.
Alors, existe-t-il une différence entre la France éternelle de Philippe Pétain et celle du général de Gaulle? En tout cas, c'est un enjeu majeur entre les différentes droites en France. Et on assiste régulièrement, depuis 70 ans, à des tentatives de faire sauter le verrou entre De Gaulle et Pétain, comme si on voulait les réunifier. Mais que faut-il y voir ?
Je pense que ce désir de réunification...
Fabrice Boutillon est historien.
C'est un désir que le général de Gaulle lui-même a ressenti, vous voyez. Et de ce point de vue-là, donc, ce qu'on peut parfois entendre à cet égard dans l'opinion est dans la continuité de ce que de Gaulle avait souhaité. Il y a un point de Vichy avec lequel de Gaulle n'a jamais transigé, c'est précisément l'acceptation de la défaite. En dehors de ça, je pense qu'il n'est pas faux de dire que il peut y avoir des points communs entre un certain type de gaullisme et un certain type de pétainisme. Je veux dire, travail, famille, patrie, ce sont des valeurs qui ne posent aucun problème au général de Gaulle. Et d'autre part, de Gaulle avait vécu de manière si profonde l'affaiblissement de la France, vous voyez, au cours du second conflit mondial, qu'il y avait aussi chez lui une volonté de réunification du pays et le désir de jeter à la rivière, justement, tout ce que ce passé avait pu avoir d'épouvantable. Donc, je vois au moins deux moments dans la carrière du général de Gaulle où il a tendu la main, non pas à Vichy, mais à certains vichistes qu'il considérait pouvoir réintégrer dans la communauté nationale. Par exemple, l'épisode du RPF. Vous voyez, donc, nous sommes sous la 4e République, nous sommes après 1946, donc de Gaulle a quitté le pouvoir parce qu'il a compris qu'il n'arriverait pas à empêcher le personnel politique de réinstaller un régime d'assemblée comparable à celui de la 3e qui nous avait mené, où vous savez. Donc il va y avoir cette 4e République qui est une 3e prolongée et largement aussi impuissante que l'avait été la 3e. De Gaulle s'en va et il va, pendant quelques années, prendre la tête d'un mouvement qui s'appelle le Rassemblement du Peuple Français et qui, en présentant des candidats aux élections, va essayer de devenir majoritaire et d'imposer à la 4e République une mutation. Et il va échouer, il faudra les événements d'Algérie quelques années plus tard pour qu'il revienne. Mais ce De Gaulle-là, qu'on a un peu oublié dans la mémoire nationale, eh bien, il accepte au RPF des personnages qui peuvent être d'une part des gens comme le colonel Rémy, vous voyez, donc un véritable résistant, mais qui venait tout à fait de la droite, et il accepte aussi un certain nombre de politiciens de droite classique qui s'étaient trouvés assez bien avec Vichy, vous voyez. Il y a là quand même une tentative de De Gaulle pour accepter une partie, finalement, de l'héritage, ou en tout cas des gens qui avaient accepté Vichy.
Charles de Gaulle.
Il est temps
1947.
Que se forme et que s'organise le Rassemblement du Peuple Français.
Donc il y a le RPF, et d'autre part, il ne faut pas non plus oublier le De Gaulle d'après 1968. Car justement, après 68, au moment où le régime gaullien est secoué vraiment dans ses fondements, eh bien le général De Gaulle acceptera l'appui électoral de gens qui n'avaient jamais été gaullistes, mais qui justement avaient pu être proches de Vichy. Donc ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans l'opinion, qui d'ailleurs me semble ne pas devoir être démesuré, grossi, vous voyez, peut se réclamer quand même de ces pierres d'attente du côté de Gaulle.
Alors est-ce qu'on peut, cela dit aussi, en 2022, rappeler les différences fondamentales entre Charles de Gaulle et Philippe Pétain ?
Eh bien, moi je crois vraiment, Philippe Collin, que la différence fondamentale, elle ne tient pas tellement à des idées. Vous voyez, c'est pas au niveau de la tête que ça se joue, c'est fondamentalement tripal. Et c'est devant la défaite que ça se joue. Bon, il y a un homme qui accepte la défaite, il y a un homme qui refuse la défaite. Et je crois que fondamentalement, c'est par ça qu'il faut interpréter tout le reste. Et qu'il n'est pas honnête, vous voyez, de ne pas donner à ce choix-là toute l'importance qu'il mérite. Et je crois que ça s'explique aussi largement par la génération auquel appartiennent les deux hommes. Pétain, en 40, il a 84 ans, vous voyez. C'est un vieillard et un vieillard qui va subir. Bon, alors que De Gaulle, je ne vais pas vous dire qu'il a 20 ans, mais en tout cas, il est infiniment plus jeune et il va y avoir une réaction de refus qui, je crois, est effectivement tripale. C'est d'abord à ce niveau-là que ça se joue.
Et est-ce qu'au niveau tripal, on peut quand même lire deux idées de la France ?
Eh ben, je n'en suis pas si sûr que ça. Mm-hmm. Hein, vous voyez, je n'en suis pas si sûr que ça. Je vous le disais tout à l'heure, travail, famille, patrie, ça aurait pu être la devise du gaullisme. Hein, vous voyez, je crois que les idées ne sont pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est justement les actes qui sont posés. Et il y a un type qui va choisir de se coucher devant Hitler et il y en a un autre qui va refuser de le faire.
Oui, mais néanmoins, le régime de Vichy va définir ce qu'est un bon Français et un mauvais Français et va le pourchasser, ce que le général de Gaulle n'a jamais fait.
Non, mais le général de Gaulle ne s'est pas trouvé dans les mêmes conditions. Vous voyez, de Gaulle n'avait pas à le faire. Il y a des espèces de tenailles politiques dans lesquelles on est pris et qui vous obligent à poser certains actes. Alors bon, cela dit, après, on peut bien sûr raffiner, mais je crois quand même que l'essentiel entre les deux hommes, la différence n'est pas d'abord d'ordre intellectuel.
On peut tout de même distinguer deux approches politiques. Celle de Pétain, qui vise à exclure, quand De Gaulle, lui, cherche plutôt à inclure.
Ah, certes, dans l'abîme effrayant, où nous avait fait rouler le désastre et la trahison, mille forces centrifuges se sont exercées sur l'unité de la France. Ce pouvoir répandait partout une propagande tendancieuse, cherchant à diviser la nation contre elle-même en jetant l'anathème contre des catégories entières de citoyens et d'abord contre ceux qui continuaient la lutte pour la patrie.
Reprenons le fil. Durant les années 50, les nostalgiques de Philippe Pétain tente donc de réinvestir l'espace politique français. À l'affût, il cherche de nouvelles occasions d'exister.
Une des manières pour les anciens pétainistes ou pour des pétainistes renouvelés de se retrouver à un point d'expression politique où là ils sont rejoints par des personnalités mais aussi par une opinion qui n'était pas forcément pétainiste, c'est bien sûr la guerre d'Algérie.
Pascal Horry est académicien et historien.
Je pense que la décolonisation va permettre à cette famille politique de trouver de nouveaux champs d'expression. Et un hebdomadaire comme Minute va être le lieu de cette synthèse. Minute est lancé en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, sur ce plan-là, est presque plus importante vers l'extrême fin de cette guerre, la création de l'OAS dans la clandestinité. Et ensuite, un anti-gaullisme virulent qui réunit deux virulences, celle des anti-gaullistes de 40-44, qui se sont jamais remis de la victoire de De Gaulle au fond sur Pétain, et puis les nouveaux anti-gaullistes de 58, 60, 61, évidemment 62.
Inter, actualité.
Jean Lefebvre au micro.
9 septembre 1961.
Le général de Gaulle a échappé la nuit dernière à un attentat sur la route de Colombelles et Deux-Églises. À 12h30, nous vous disions, c'est une organisation probablement assez puissante qui a monté cette affaire. À 15h, le ministre de l'Intérieur lui-même affirmait, c'est l'OAS qui est responsable.
On a vu ces derniers temps, Pascal Horry, certains courants tenter de faire sauter en France le verrou entre Philippe Pétain et Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tentative de vouloir finalement les réunifier, de faire comme s'ils avaient été complices? Qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette tentative?
Il y a eu un échec politique du pétainisme. Et il y a surtout, on peut dire, un échec moral, en tout cas une dimension éthique très lourde, en particulier dans le cas de Vichy, qui a été de plus en plus indexé à partir du milieu des années 70 sur l'antisémitisme, qui n'était vraiment pas la question centrale. Évidemment, en 44-45, c'était la trahison. C'était pas l'atteinte aux droits de l'homme. Et donc, l'idée que votre idéologie, si vous êtes nostalgique du fascisme et précisément du nazisme, votre régime, si vous êtes nostalgique de Vichy, a quand même partie liée avec quelque chose qui reste à une sorte de grand gouffre éthique, je pense que c'est insupportable. C'est insupportable. Et pour certains, c'est simplement indispensable de ruser. Mais que ce soit insupportable vraiment ou que ce soit une tactique, il faut casser cette association maudite.
Est-ce qu'on peut peut-être, Pascal Horry, rappeler brièvement, si c'est possible, en 2022, qu'est-ce qui différencie Philippe Pétain et Charles de Gaulle? Est-ce que ce sont deux idées de la France très distinctes?
D'après moi, ce qui différencie fondamentalement Charles de Gaulle et Pétain, c'est qu'ils sont extraordinairement proches en tant que militaires, en tant que patriotes, on peut même aller jusqu'à dire nationalistes dans le cas du général de Gaulle, et qu'ils en tirent des conclusions radicalement opposées en 1940. Donc c'est paradoxalement la proximité intellectuelle des deux hommes qui rend fondamentale leur rupture.
Dans la perspective des élections législatives en France, plusieurs mouvements d'extrême droite se sont regroupés. Et c'est ce Front National, comme il s'appelle, qui a tenu hier soir à la Mutualité à Paris son premier meeting.
Voici un des tout premiers reportages à la télévision française où il est question du Front National. Nous sommes en novembre 1972.
Un service d'ordre discret, plus de croix celtique mais force slogan, et la flamme tricolore. C'est une triple mission que Jean-Marie Le Pen assigne à la droite nationale.
Abaisser le communisme, abaisser l'UDR, abaisser la majorité. Est-ce à dire pour autant que nous sommes prêts à voir venir et à prêter la main à l'arrivée au pouvoir du néo-Front populaire ?
Alors, en 1972, Pascal Horry, Jean-Marie Le Pen donne naissance au Front National. Quel lien peut-on tisser entre ce parti politique d'extrême droite et les nostalgiques du maréchal Pétain ?
Compte tenu du fait que Jean-Marie Le Pen lui-même assure le lien entre la création de ce Front National dans les années 70 et les combats anti-gaullistes de la guerre d'Algérie, et en remontant plus haut, c'est pas tout à fait confondu, on est dans les années 50, le poujadisme, donc un mouvement populiste qui a eu son heure de gloire, on peut dire que effectivement Jean-Marie Le Pen représente une tradition de l'extrême droite, pour simplifier, disons, extrême droite, anti-gaulliste, c'est incontestable. Quand on regarde la composition du Front National, c'est une tentative relativement réussie, mais ça reste groupusculaire pendant 10 ans, hein, ne l'oublions pas, de réunir toutes les extrêmes droites. La guerre d'Algérie étant quand même le lien central, mais si on fait la traçabilité de certains responsables du Front National, ça permet de remonter jusqu'à Vichy, voire la collaboration pour quelques-uns d'entre eux. L'essentiel, c'est qu'il y a quand même cette structure d'attente, mais c'est le changement de société avec la sortie des Trente Glorieuses, c'est en tous les cas mon hypothèse, milieu des années 70, qui fait que les chances d'un mouvement populiste, les chances d'un renouvellement de la pensée de droite, la nouvelle droite, etc., ce sont les années 70 aussi, finissantes, face à une crise de la pensée de gauche, l'effondrement du modèle soviétique et même des modèles néocoloniaux, en quelque sorte, eh bien, je crois que tout ça permet à ce Front National d'être une structure d'accueil qui va faire des petits, quand même, et qui va savoir se renouveler jusqu'à la situation actuelle, même si c'est au prix de scission, ce qui serait la situation actuelle. Puisque, en effet, à partir du Rassemblement National, vous avez des configurations plus larges qui ne se limitent pas à ce parti.
Rappelons que le cofondateur du Front National, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, s'appelait Pierre Bousquet, trésorier du parti, né en 1919, ancien Waffen-SS français, engagé volontaire dans la division Charlemagne.
C'est quoi ?
L'emblème de la SS. Et au revers, un juif pendu.
Merci.
Et c'est à l'époque de cette naissance du Front National que le cadavre froid du vieux maréchal Pétain ressurgit dans l'actualité.
Personne n'en est encore revenu à l'Île-Dieu, ni à La Roche-sur-Yon, préfecture de la Vendée, ni ailleurs, nulle part en France. Le cercueil du maréchal Pétain, composé d'une enveloppe de chêne dans laquelle se trouvait un autre cercueil de zinc, a été enlevé dans la nuit de dimanche à lundi. Ce cercueil pèse 800 kilos. Plusieurs personnes ont donc dû intervenir pour parvenir à l'enlever et à le transporter jusqu'à une voiture qui attendait sans doute devant le cimetière.
Quelques mois après la création du Front National, Pascal Horry, le 18 février 1973, arrive une curieuse affaire. Un commando de 4 à 5 personnes vont voler le cercueil de Philippe Pétain dans son caveau de l'Île-Dieu. Qui se cache derrière cette affaire assez rocambolesque ?
Autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui, cet épisode a comme caution principale Jean-Louis Tixier-Vignancourt.
Jean-Louis Tixier-Vignancourt, un homme de 57 ans, adjoint de Laval à Vichy, deux fois député du centre, champion de l'Algérie française, défenseur de Salan, l'un des plus brillants avocats de Paris, passé maître dans l'art de renvoyer la balle.
Informez-vous par vous-même. Ne laissez pas une radio, une presse, une télévision à sens unique décider pour vous. Venez tous entendre le premier orateur politique de votre temps, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, candidat national et libéral à la présidence de la République.
Jean-Louis Tixier-Vignancourt, anti-gaulliste féroce et commanditaire de ce vol du cercueil de Pétain.
C'est peut-être le dernier moment où Jean-Louis Tixier-Vignancourt ait joué un petit rôle qu'on ne qualifiera pas d'historique. Il s'agit évidemment d'une opération de communication consistant à mettre en lumière ce qui, aux yeux de ces comploteurs, on peut le dire, est un scandale, c'est-à-dire qu'on oublie le Pétain qui a au fond contribué à sauver la France en 14-18, sous-entendu qu'il a sauvé une deuxième fois en 1940. Au total, l'opération va tourner court.
Trois jours après avoir disparu du cimetière de l'Île-Dieu, le cercueil du maréchal Pétain y a été ramené ce midi. Le cercueil était arrivé en hélicoptère, en présence du préfet de la Vendée, de magistrats et de policiers. Des anciens combattants formaient une haie d'honneur. Un cortège s'est formé, précédé de drapeaux tricolores. Il y avait aussi des gerbes de fleurs. Et sur la cravate tricolore de l'une de ces gerbes, on lisait « Le président de la République ». Après d'ultimes prières, le cercueil a été replacé dans le tombeau à 14h35.
Dans l'indifférence générale, Philippe Pétain a donc regagné son caveau. En 1973, son image s'est dégradée dans la société française, car la réalité du régime de Vichy se dessine enfin grâce à une révolution mémorielle. Une révolution, d'abord grâce à des films documentaires comme « Français, si vous saviez » ou « Le chagrin et la pitié », mais aussi grâce à une émission de télévision.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir.
Les dossiers de l'écran, en 1976.
Voici ce soir ce dossier Pétain qui vous est annoncé depuis longtemps. Le film que nous vous présentons ce soir ne veut être qu'un reflet de la période de notre histoire qui se situe entre l'armistice de juin 1940 et la libération, c'est-à-dire un peu après 1944. Nous savons bien qu'il s'agit là d'une période particulièrement douloureuse de notre histoire, qu'il est difficile de l'évoquer sans raviver des passions que le temps n'a pas encore tout à fait apaisées.
Après le film, un débat tendu opposa entre autres Jacques Isorni et Robert Paxton, historiens américains qui a bouleversé la perception des années d'occupation en France.
Nous ne pouvons pas continuer ce dialogue à plusieurs. Le téléspectateur ne comprend strictement plus rien. Non, maître Isorni, je voudrais qu'il fût répondu.
Je voudrais répondre à M. Paxton d'un mot.
D'un mot. Oui.
Paxton éclaire différemment le régime de Vichy pour ensuite bâtir une théorie.
En gros, la thèse de Paxton, enfin, je la résume.
Henri Rousseau.
C'est de dire la révolution nationale était la politique intérieure, c'était la volonté de mettre fin à la République et de construire sur les ruines de la défaite un nouveau système politique. Bon, on en a des preuves, mais quasiment au quotidien sur l'action du régime de Vichy. Et dans le même temps, d'avoir comme politique extérieure, alors c'est moi qui rajoute ces termes politique intérieure, politique extérieure, d'avoir une stratégie. C'est pas juste on va collaborer parce qu'on est d'accord avec l'ennemi, pas du tout. On collabore pas de gaieté de cœur avec celui qui occupe votre pays. Bon, pourquoi? Parce que c'était une stratégie qui était conserver une place à la puissance française. La France est une puissance mondiale à l'époque, défaite. Donc c'est un événement considérable, la défaite française. Eh bien, il faut lui conserver une place dans le futur ordre qui va sortir de la guerre, et personne ne peut le dire, en 40, on ne le sait pas, en 42, on ne le sait pas encore, en 44, ça c'est autre chose. On commence à savoir quand même que ça ne marchera pas comme ça. Bon. Et donc, la collaboration, c'est à la fois une stratégie, et en même temps, une façon d'exprimer une proximité avec celui qui est le maître d'œuvre de cette stratégie, à savoir le Troisième Reich. Voilà. Et pour la première fois, de manière assez claire et avec des documents. Paxton va développer cette idée, montrer comment il y a une articulation entre la Révolution nationale et la stratégie de collaboration. Pour avoir une politique intérieure, il fallait que le régime de Vichy ait une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, c'était la stratégie de collaboration qu'il a lui donnée. Et en lui donnant une coloration qui était celle de la Révolution nationale, qui est proche du fascisme, enfin je simplifie parce que le régime de Vichy, de mon point de vue, n'est pas un régime fasciste stricto sensu, bon, il donnait des gages à la puissance allemande en disant nous sommes un régime de votre côté, qui est situé de votre côté, régime de surcroît qui est né de la volonté française et non pas de la volonté allemande. Voilà.
Je pensais que 25 ans après la mort de Philippe Pétain, on aurait pu parler de tout ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1944 avec moins de passion. Alors, peut-être que dans quelques années, mais personnellement, je ne serai peut-être plus là, on pourra de nouveau parler de cette période avec, disons, un peu plus de sérénité. Je remercie tous les participants qui ont bien voulu s'associer à cette émission, et vous aussi, amis téléspectateurs, qui avez veillé tard ce soir pour nous suivre, je l'espère, jusqu'au bout.
Mes chers amis, pour la quatrième fois, la France célèbre, dans l'épreuve et la tristesse, un Noël de guerre.
Philippe Pétain, Noël 1943.
Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile ou si triomphait le communisme et sa barbarie païenne.
Philippe Pétain est né en 1856, au XIXe siècle, sous le Second Empire, sous Napoléon III, dans un monde ancien, habité par le culte du chef, l'empereur, pétri par des vertus archaïques de la francité catholique, on va dire, également persuadé que l'ordre social était immuable. Je dis ça, Pascal Horry, parce que au final, Philippe Pétain a toujours était et resté un homme du 19e siècle, finalement assez inadapté à la marche du temps.
Philippe Pétain, par son âge, par ses origines sociales, par le choix de son métier, par son évolution dans l'entre-deux-guerres, surtout dans les années 30, est un homme d'ordre, d'autorité, de patriotisme un peu à l'ancienne, oui, mais sans doute à l'image de la France. Pourquoi voulez-vous qu'en 1940, la France soit tellement 20e siècle? Elle est très rurale encore, elle est très paysanne, ce qui n'est pas synonyme, elle est encore assez catholique dans certaines régions, elle est patriarcale dans les rapports hommes-femmes, etc. Donc, il n'est peut-être pas si décalé que ça. Et puis, il y a des moments où on a besoin, ça a donné Philippe Pétain en 40, ça a donné Charles de Gaulle en 58, d'un grand-père protecteur. Et je dirais que la société d'aujourd'hui, qui serait l'inverse de tout ce que je viens de dire, vous savez, elle a peut-être autant besoin de protecteurs en cas de coup dur. Et les coups durs, j'ai l'impression qu'on nous les annonce. Donc l'idée qu'on cherche une protection autour d'une figure autoritaire, ça ne disparaîtra jamais.
Mais madame, à quoi ça sert l'histoire ?
Pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. L'histoire, c'est la connaissance du passé. C'est le passé qui nous éclaire le présent. Et c'est en conservant la mémoire du présent qu'on peut éclairer l'avenir.
J'ai rien compris. Mais si, c'est facile.
Qu'est-ce que vous avez appris, Bénédicte Vergès-Chaignon, à passer des mois comme ça en compagnie des archives consacrées à Philippe Pétain ?
En fait, je me suis placée exactement dans la position de n'importe quelle personne curieuse du parcours de Philippe Pétain et des décennies qu'il avait traversées. Donc, oui, j'ai découvert un parcours complexe, mais quel parcours de vie ne l'est pas, qui embrasse quand même presque un siècle, de la moitié du 19e siècle à la moitié du 20e siècle, donc qui se commence avec Rimbaud et qui finit avec Marilyn Monroe, et en même temps qui est tellement lourd de sens et d'interrogations pour chaque Français.
Français.
Philippe Pétain, octobre 1940.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef.
Pour finir, Henri Rousseau, vous êtes un des historiens les plus importants sur la période. Vous avez passé votre vie à travailler sur la France de Vichy, Philippe Pétain, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez 66 ans. Est-ce que vous auriez pensé qu'il était nécessaire en 2022 de réexpliquer encore une fois qui fut Philippe Pétain?
C'est une question difficile, l'air de rien, parce que dire ça à un historien, ça voudrait dire que j'aurais travaillé sur cette période en ayant constamment la conscience que ce que je faisais ne servait à rien. Bon, évidemment, c'est difficile d'admettre ça. Non, j'ai, en mon fort intérieur, espéré, comme la plupart des historiens ou historiennes de la période, qu'on puisse faire avancer les choses. Maintenant qu'il y ait des formes de révision de cette histoire-là, non, ça ne me surprend absolument pas. C'est absolument régulier. Celle à laquelle on assiste aujourd'hui est une des plus, d'une des moins intéressantes sur le plan historiographique. Elle est quasi ridicule. Il y a eu d'autres historiens qui ont essayé, bon, ils n'y sont pas arrivés. Bon, mais là, on est dans une opération purement politique, donc qui n'a rien à voir. Mais oui, et je pense que ce sera encore le cas dans 5 ans, dans 10 ans. C'est un nœud de l'histoire de France. La question de l'occupation est un nœud de l'histoire de France, et Pétain, évidemment, est au centre de cette histoire. Et puis surtout, on est aujourd'hui dans une époque où les gens oublient plus vite qu'avant. Et donc, c'est le principe de la pédagogie. Il faut répéter, etc. La seule différence, c'est que, à la différence de mon époque, quand j'ai commencé à travailler, où on ouvrait un manuel et il n'y avait quasiment rien, enfin, je répète des choses qui sont connues, aujourd'hui, il y a beaucoup plus en tous les cas. Ça veut dire, ceux qui croient aujourd'hui, ou ceux qui veulent croire les mensonges qu'on débite autour de Vichy, c'est très simple d'être informé. Ceux qui écoutent les mensonges sont aussi coupables que ceux qui les profèrent.
Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle.
En conclusion générale de cette enquête historique, que faut-il retenir? D'abord, se souvenir qu'en à peine 4 ans, entre 1940 et 1944, le régime du gouvernement de Philippe Pétain et ses sbires a été l'un des plus répressifs et l'un des plus violents de l'histoire de France. Et Philippe Pétain a offert sa caution à ce régime, il est donc responsable. Ajoutons que pendant ces 4 ans, Philippe Pétain a persécuté les Juifs français. C'est la réalité des faits. Ensuite, pour répondre à la question posée dans le premier épisode, qu'est-ce qui se cache derrière la France éternelle de Philippe Pétain? Eh bien, c'est sans aucun doute une France qui rejette les acquis de la Révolution française. Une France d'avant, une France fantasmée, une France du repli sur soi autour de valeurs réactionnaires et qui refuse la marche du temps avec une aspiration folle qui voudrait enfermer la société française sur elle-même. Enfin, le destin de Philippe Pétain pose aujourd'hui la question à chacune et chacun d'entre nous. Qui suis-je en tant que citoyen français? Pour finir, je vais laisser les derniers mots à Pierre Dac, un homme de radio et un Français, tout simplement.
Philippe Pétain, de son balcon, regardez la honteuse rangée de Faucheton, la brochette de sacré cochon, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnan, d'Oriot, Laval, Henriot, Danner, Étain, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous? Tous, tous, tous! Prennent tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de ses enfants de Pétain.
Le fantôme de Philippe Pétain. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Faurondu et Romain Couturier. Reportage sur l'île Dieu, Martine Abbat. Mixage, Benjamin Orgeret. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter.
Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. Le fantôme de Philippe Pétain par Philippe Collin, un livre France Inter.